D'abord, bravo à toutes les équipes de tous les ateliers pour plusieurs raisons, parce que je suis extrêmement heureux d'avoir vu le travail que vous êtes arrivé à faire dans un temps si court. Mais ça prouve deux choses. La première, c'est que le sujet vous passionne. Parce que quand on commence à avoir des réponses qui naissent en une heure, c'est que on a déjà eu un certain nombre de bouillies de neurones qui ont été bouffées pour ça. Hein ? Et la deuxième chose que j'ai bien aimée, c'est qu'on s'est vraiment servi de la matinée comme exemple de base pour construire la réponse que vous avez voulu donner. Une des choses qui est extrêmement importante dans ce que vous avez pu travailler ce matin, c'était, et je ne reprends que le mot d'Axel, c'est une politique partagée. Nous sommes aujourd'hui dans l'accès aux soins, dans une politique à partager. Et c'est une notion de politique à partager parce qu'elle aura des conséquences à tous les niveaux de ce que l'on pourrait appeler la politique. Et lorsque on n'a pas de politique partagée, eh bien, on n'a pas de capacité d'investir pour aller là où le progrès. Sans politique partagée, il n'y a pas d'investissement. Donc ça, c'est le premier élément, et je voudrais dire que un des éléments que moi je traiterais comme transversal, et il n'y a pas que la santé, il n'y a pas que l'accompagnement qui est traité par ça, c'est notre difficulté, nous, enfin de moi, vieux, de travailler avec le numérique. Mais ma petite fille qui a 3 ans sait le faire. Donc le problème c'est moi, c'est pas ma petite fille. Donc il va falloir qu'on arrive avec le numérique à savoir s'en servir. Alors, on a aussi besoin, avec le numérique, d'aller chercher, je dirais, toute l'ingéniosité et les synergies possibles pour que le numérique soit au service de la personne et non pas la personne au service du numérique. Je me rappelle de, quand on a travaillé sur le plan du PMSI ou de l'informatique du ministère, j'avais plutôt le sentiment que c'était à nous de nous adapter à l'informatique que l'informatique nous adapter. Alors là, j'ai eu de la chance parce que j'ai vu qu'on a pensé aux vieux comme moi et vous avez fait des propositions intéressantes. C'est d'être face au numérique un médiateur. Et ça, je pense que c'est une... Ouais, moi, je vous donne simplement un exemple. J'ai une personne de ma famille qui a 90 ans, qui ne sait pas comment l'année prochaine, elle va recevoir sa feuille d'impôt parce qu'elle n'a pas d'ordinateur, pas d'adresse mail, elle n'a rien. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, dans le système de santé aujourd'hui, le numérique peut poser d'énormes problèmes, et ça, vous y avez pensé, et il faudra que ça fasse partie d'une politique globale et qu'il va falloir investir si on veut changer et que ce changement, il sera fort. La deuxième notion du numérique m'a énormément intéressé, c'est que aujourd'hui, où est-ce que l'autonomie est confortable? Elle est dans la vraie vie. Et où est-ce que c'est la vraie vie? C'est avec tout le monde. Et où est-ce qu'on habite quand on est avec tout le monde? À domicile. Ça ne veut pas dire que les établissements ne soient pas des domiciles à part entière des personnes. J'espère que Clément est chez lui. Mais ça veut dire aussi qu'il faut que nous arrivions à comprendre comment on va travailler et comment on va se servir du numérique pour permettre à des gens d'habiter chez eux. J'ai compris aujourd'hui que c'était un vrai challenge. J'ai été très intéressé de découvrir qu'en Angleterre, toute personne lourdement handicapée, aujourd'hui, on lui fournissait une tablette qui lui permettait d'être en connectique permanente avec toutes sortes d'aides à tout moment, que ce soit pour mettre un vêtement pour aller au cinéma, ou même demander de l'aide, ou récupérer une cuillère en bois qui est tombée dans la cuisine, qu'on ne peut pas ramasser parce qu'on est tétraplégique. Cette notion qui permettra à domicile, qui permettra à la personne de vivre, c'est un bon moyen. J'ai une amie qui s'appelle Noémie Nolot, tétraplégique, trachéotomisée, qui habite à Nantes, toute seule, et qui vit toute seule, parce qu'elle a inventé tout ce qui était possible pour vivre toute seule. Eh bien, aujourd'hui, qu'est-ce qui va le permettre? Eh bien, c'est cet investissement de tout le numérique qui va donner non seulement des moyens de faire, mais une vraie autonomie, parce que le numérique ne décide jamais à votre place. Troisième notion, dans le numérique, ça a été évoqué dans la difficulté et la relation qu'il y avait entre l'acteur de soins et le praticien, quel qu'il soit. J'ai cru comprendre que dans le numérique, on voudrait trouver un moyen. Je ne sais pas si c'est un espoir ou c'est quelque chose, c'est comment dématérialiser le rendez-vous. Comment arriver à le préparer, comment à l'initier. On se retrouvera là, peut-être, dans une relation qu'on retrouvera dans un autre atelier et en transversal de l'urgence. Si je dis une chose, c'est que toute la notion de la dynamique du numérique doit, par l'autonomie qu'il va donner, il doit permettre de vivre à domicile, il doit permettre de vivre avec tout le monde et il doit permettre de communiquer. Et ça, c'est le vivre ensemble. Deuxième élément, dans un atelier qui m'a intéressé assez fortement, c'est... Alors là, moi, je vais l'appeler la réunion, l'Obamacare de la réunion. La réunion Yes We Can, comment on dirait ça en créole? Il n'y a pas quelqu'un qui pourrait me le faire, la réunion, comment? Les capables. Vous, attendez. Allez-y, doucement que je puisse le comprendre.
Nous les capables.
Nous les capables, ça va. Alors c'est nous les capables, ça c'est la réunion, nous les capables, c'est le Yes We Can. Et là, j'ai vu un dossier, c'est on a envie de devenir capable, on a envie de se former. Là, j'ai vu dans le groupe de formation quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup intéressé. Dans nos les capables. Non, c'est pas le bon accent. Non, les capables, comment? Olé, olé. Il va falloir que nous arrivions ensemble à trouver le moyen de réintroduire dans le système de santé, dans la formation du système de santé, bien évidemment, tout l'handicap. Et ça, c'est une base. Et je dois vous avouer que c'est quelque chose qui est bien en route. Je suis extraordinairement heureux. Je ne sais pas si vous avez pompé sur Internet, mais si vous ne l'avez pas fait, c'est que vraiment vous êtes bon parce que vous avez proposé pratiquement 4 des propositions qui sont dans le plan de la formation de demain. Ça a été une formation qui a été présentée à Reims le 30 janvier dernier, dans lequel il y a des choses extrêmement intéressantes. La première chose, c'est la formation initiale des acteurs de soins. Vous souhaitez aujourd'hui, en tant qu'acteur de soins, être formé au handicap. Et cette formation, vous la considérez comme étant obligatoire. Alors ça, c'est un phénomène nouveau. Alors nous, on a eu cette discussion, bien évidemment, au mois de janvier et toute l'année qui a préparé la charte Romain Jacob de la formation des acteurs de soins, qui va être signée au mois de mai, cette charte-là dit que si on veut faire une bonne formation, c'est le deuxième élément que vous avez demandé, c'est qu'il faut être sensibilisé à l'handicap. Qu'est-ce que ça veut dire être sensibilisé à l'handicap ? C'est-à-dire se trouver dans une situation où on va rencontrer le handicap avant que l'urgence ne l'impose. Et là, vous l'avez fait, et vous m'avez proposé un stage de 2-3 jours de tous les acteurs de soins dans le cadre de leur école de formation. Eh bien, je vais vous donner la décision qui a été quasiment prise, puisqu'elle est là dans la loi de santé publique, c'est que on ne pourra plus valider en 2018 un stage, une deuxième année d'une école d'un acteur de soins, quel qu'il soit, ergo, médecin, s'il n'a pas fait un stage dans un lieu de vie de personnes handicapées avant les examens de la deuxième année. Ça ne fait que de correspondre à ce que vous nous proposez. Par contre, là, il y a une vraie exigence. Là, il va falloir que vous accueilliez ces jeunes étudiants dans vos centres, pour ceux qui sont du médico-social, et que vous soyez une structure d'accueil qui allait, les uns et les autres, valoriser ce travail. Ce stage est fondamental. Comment allez-vous les accueillir ? Qu'est-ce qu'on va dire ? Et cet élément-là est un élément extrêmement important. Vous n'avez proposé, pour la formation continue, un DU sur la formation handicap pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir une formation qui leur ait permis d'avoir la rencontre ou d'apprendre ce que c'est que le handicap dans les études qu'ils ont faites. C'est-à-dire qu'il y a déjà une population active dans le monde du soin et cette population n'a pas, probablement pas, la formation qui aura en 2018, 2020, 2030. Vous proposez un DU. Moi, je trouve que c'est une très très bonne idée de proposer un DU s'il est accompagné d'un travail avec les personnes. Qu'est-ce qui va être le meilleur porteur, pas d'handicap, mais de communication avec le professionnel de santé, c'est de travailler avec la personne elle-même. C'est de la rencontrer, c'est de travailler avec lui, c'est de créer avec lui. Si ce DU, c'est quelque chose de très théorique, on en fera très peu le lien avec le quotidien. Si ce DU est un travail qui est fait avec la personne concernée et pendant, et on arrivera à avoir probablement une formation qui sera attractive, innovante et probablement qui vous apportera beaucoup. Nous avions, dans la formation initiale, évalué le module de formation. Vous savez qu'il a été fait, à la demande de la loi de 2005, un module handicap. En 2005, il est paru en 2008, il a coûté 13 millions d'euros. Ça a été fait avec un certain nombre d'universités. Malheureusement, il n'y avait que 15 personnes qui l'ont suivi en 2015. Ça prouve qu'on n'était pas sur la bonne route. Donc aujourd'hui, il faut que nous trouvions des méthodes de travail dans les groupes de santé. Et ce que vous avez proposé m'a paru extrêmement pertinent parce qu'il va avoir deux rôles importants. C'est réunir les acteurs et de créer une pluridisciplinarité autour de la formation en ayant des formations partagées pluridisciplinaire, apprendre ensemble pour travailler ensemble dans le cadre des missions de santé. Je pense que cette complémentarité de la formation et de la capacité à travailler ensemble est un élément extrêmement puissant. Et d'ailleurs, c'est un petit peu une forme d'école qui existe en Suède. En fait, en dernier lieu sur la formation. Vous interpellez encore une fois l'ARS. Mais là, je trouve que dans le... Rappelez-moi le nom. Collé. Nolet Capable. Dans le Nolet Capable, vous devriez être un tout petit peu plus musclé quand même. Vous devriez vous proposer un appel à projet à l'ARS et non pas lui demander de le faire, parce qu'à mon avis, vous le ferez beaucoup mieux que lui. Vous allez proposer à l'ARS, vous allez demander un appel à projet sur l'ensemble des formations disponibles à tous les acteurs. Ça, je crois que c'est une vraie notion importante de savoir ce qui est disponible. Et chaque fois que vous allez avoir un dossier sur cet inventaire de formations qui existe, j'en connais d'autres, je connais beaucoup d'associations qui sont porteurs de leur propre école de formation, je vous invite à systématiquement mettre dans votre appel à projet que la personne pour laquelle vous agissez est le meilleur enseignant de ce qu'il faut. Voilà. Il faudrait que j'écrive un peu mieux. Hein. Ça doit être un handicap. Hein. Moi, j'ai été dans un atelier assez fantastique que nous avons été beaucoup trop bavards avec Pierre Rodier. Enfin, lui était très bavard, moi pas beaucoup. Et je m'en excuse. Et là, je dois dire que... bon, on avait des antisèches qui nous ont permis d'aller plus directement au vif du sujet, car il y a déjà une charte Romain Jacob qui est sortie sur les urgences. Et je vous invite à ce qu'elle soit dans tous les services d'urgence, quels qu'ils soient aujourd'hui, dans le Nord est capable. Nous les. D'accord. Vous avez fait 4 propositions extrêmement intéressantes. La première, c'est éviter l'hospitalisation. Et cette éviter l'hospitalisation, c'est quoi ? C'est d'éviter d'aller à l'hôpital quand on pourrait exactement se faire soigner mieux, beaucoup plus vite, et à la maison. Ou dans l'établissement dans lequel on habite, qui est, pour moi, simplement le synonyme de maison. Et ça, je crois que ça a été la proposition de l'urgence mobile. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'urgence mobile est aujourd'hui une expérience qui est en train de se faire en métropole. L'urgence mobile, c'est, dans le droit commun, une organisation d'urgence, un médecin compétent dans le handicap, une infirmière compétente dans le handicap, d'orientation, qui se déplace lorsqu'une personne handicapée demande à venir à l'hôpital ou à se faire transporter pour l'hôpital. Sur 700, c'est à fin décembre, Jean-Louis, je crois, le dernier chiffre que nous avons eu, sur 700 et quelques réponses, visite de personnes, il n'y a eu que 90 personnes qui sont en fait allées à l'hôpital. Non pas qu'elles n'ont pas été soignées, mais ce n'était pas l'hôpital qui était destiné à répondre à leurs besoins. Et de ce fait, ils ont réussi. Deuxième notion, c'est que dans les 90 personnes qui sont aller à l'hôpital, il n'y en a que 22 qui sont passés par les urgences. Parce que l'infirmière avait trouvé le lieu directement sans passer par les urgences. Là, je vais vous dire, indépendamment du caractère économique de la chose, c'est pour nos enfants, pour Romain, pour Clément, quelque chose d'indispensable. Parce que la nuit, sur beaucoup de terrains, c'est vachement difficile de déménager tout. Surtout qu'il faut rester là où il est pour l'accompagner dans des conditions parfois extrêmement difficiles. Là, je dis, sur cette urgence mobile, c'est un progrès et je vous invite à pouvoir le faire car vous avez tous les outils, nous les capables. Pas mal, non? Ça y est? Ça vient? Bon. Deuxième point, et ça m'a fait très plaisir, et c'est le docteur, je vous vois ici, qui l'avait proposé, et c'est merveilleux, c'est anticiper l'urgence, anticiper l'acte de soin, anticiper, c'est vous qui avez, dans vos établissements, énormément de temps occupationnel, utilisez ce temps à apprendre à vous soigner. Utiliser ce temps à apprendre ce qu'est un fauteuil, faire découvrir à Clément, autiste et IMC, qu'un fauteuil de dentiste, ça peut être aussi un jouet, ça va complètement décomplexer la chose. Ce temps occupationnel doit pouvoir nous servir à comprendre. Et à Châtellerault, à Poitiers, à Pellegrin, à Chartres, nous avons mis en place une journée qui accueille les personnes et les établissements pour que les personnes en situation de handicap, les personnes handicapées pour les uns ou pour les autres, puissent venir visiter l'endroit avant que l'urgence ne l'impose. Et là, je vais vous dire, on a la fiche technique qui arrive, on a quand même... Je vous rappelle quand même que je suis un petit peu ennuyé, hein. Il y a quelque chose qui ne marche pas, même ici. Il est défini dans la loi que nous devons avoir une convention d'un établissement avec un hôpital de proximité. Il n'y a que 10% des établissements aujourd'hui. Vous devriez avoir la même chose pour la CHAD. Eh bien, malheureusement, il n'y a que 10% des établissements qui ont des conventions et qui permettraient de mettre en place ce système. Et je crois que ça, c'est une bonne idée. Bravo à ceux qui l'ont lancé. La fiche technique, on ne va pas y revenir, elle est indispensable, elle évite, quand on ne sait pas qu'une personne est IMC et qui est en crise d'épilepsie, de l'intuber à la place de mettre simplement deux ampoules de Valium dans le derrière. J'ai un point important pour ceux qui, dans les CHU, et je ne vois plus les personnes, le médecin avec qui nous en avons parlé, il est important qu'il y ait une pièce dans les locaux d'urgence pour permettre aux personnes lourdement handicapées d'être changées et que dans le chariot, il y ait, bien évidemment, tous les outils pour la trachéotomie et qu'on ne soit pas obligé de faire une aspiration avec une sonde de pipi. C'est très désagréable. Je parle aussi de la gastrotomie et de tout ce qu'il y a dans les cathéters. Eh bien, si le matériel est là, on n'attendra pas pour se faire aspirer une heure, voire deux heures. Et je vais vous dire que pour une personne qui est trachéotomisée, attendre deux heures pour être aspirée, c'est vraiment une très, très, très vilaine maltraitance. Le chariot vous sera présenté, le chariot et le service d'urgence vous sera présenté à Hôpital Expo dès le mois de mai. Et vous aurez un exemple même et j'y rajouterai les idées que vous nous y avez apportées. Un autre chantier arrive dans mon souhait de ce matin d'avoir un droit commun à la santé. C'est ce que nous appellerons aujourd'hui le premier recours. Est-ce que je peux vous donner une bonne nouvelle ? Lorsque nous avons fait l'étude avec le Conseil de l'Ordre des médecins, il y a 5 ans, il y avait 23% des acteurs de soins qui refusaient qu'une personne handicapée vienne. Ça me paraissait déjà énorme, mais c'était malheureusement ce qui était dit. Et... Par contre, je suis très content que l'étude que nous avons faite au mois de décembre dernier a ramené ce chiffre à 11. Ça veut dire qu'on a déjà divisé par 2. On arrivera difficilement à gagner les derniers tantièmes. Mais je suis sûr que ceux des médecins qui auront eu dans leur classe ou dans leur université des personnes handicapées n'auront plus ce comportement. Et riches de leur propre expérience, ils n'auront plus besoin soit de donner des délais impossibles à la personne handicapée, soit simplement de les refuser. C'est dans le droit commun qu'on va donc trouver un accès à toutes les formes de médecine. Et il va falloir comprendre que l'acteur de soins va avoir besoin d'une aide. Celui qui croit qu'il va arriver à soigner mon Clément sans moi ou sans quelqu'un qui l'aide, eh bien, et cette aide-là, c'est un accompagnement qui va être source de succès du soin. Et je peux vous dire que d'y avoir pensé, que cette aide soit disponible pour tous les praticiens. Nous l'avons mis en place dans l'Isère pour la stomatologie. Nous sommes en train de le faire pour la gynécologie à Toulouse. Nous l'avons mis en place à Poitiers. Nous l'avons mis en place à Rennes. Eh bien, cette aide est en train de énormément bien fonctionner parce que lorsqu'un médecin sait qu'il peut avoir de l'aide pour soigner et d'en disposer dans n'importe quelle structure de proximité, c'est un gain énorme et ça permet d'aller chez un praticien au lieu d'aller à l'hôpital. Deuxième, c'est d'être dans une situation adaptée. Et je dois vous dire que être dans une situation adaptée, c'est d'être capable d'avoir un lieu de travail où on ne va pas se trouver dans son propre travail face à des obstacles parce qu'on n'est pas équipé. Je crois que cette capacité qu'il y a, je prends simplement un exemple qui m'a été donné, le transfert du fauteuil à un autre fauteuil, si on ne sait pas le faire, si on ne sait pas l'organiser, si on ne sait pas le faire, eh bien, c'est long. Et casse-gueule, et vous avez 99 chances sur 100 de faire une bêtise et de retomber tout le monde par terre. Alors là, si on a le... Ça ne fait pas une très grosse économie avec un col de fémur en plus. Non, l'est capable. La troisième notion du premier recours, elle va aussi se faire dans le temps et dans le parcours. Pourquoi ? Vous l'avez évoqué ce matin, et je crois que ça c'est un élément important. Pourquoi ? Parce que nous avons tous parlé ensemble de ces familiers, professionnels, parentaux, bénévoles, qui vont être les acteurs de cette réussite. Cette réussite va passer par une coordination. Je vous rappelle que la non-coordination médicale aujourd'hui est la raison d'une iatrogénie et cette iatrogénie est la raison d'un décès d'une personne handicapée sur 4. Cette notion là elle vient qu'une personne handicapée sur 2 est atteinte d'une maladie chronique et que 75% d'entre elles sont peu ou pas assez soignées. Donc aujourd'hui cette coordination, tout ce travail que nous allons faire qui va éviter qu'on soit avec les uns ou avec les autres, avec un médecin qui sera la clé de 3 mais pas la clé de 4. Il faut qu'on ait une vue globale de la santé et cette vue globale de la santé, c'est ce qui permettra à la personne de construire son autonomie. Cette notion, c'est la coordination, vous l'avez proposée et elle serait, d'après vous, capable d'être une forme de réunion de compétences autour de la personne qui vit en ville, dans la maison de santé, pour qu'il y ait une forme de staff comme il y en a à l'hôpital, mais en maison de santé. C'est une très, très, très bonne idée. Essayons de travailler ensemble pour trouver des solutions ensemble. Le dernier atelier, alors là, moi c'est mon bébé favori. C'est Axel Kahn qui était le représentant de cet atelier. Et c'est la prévention. Ce matin, François nous disait que le dépistage, la prévention n'était pas faite. Parce que d'une part, elle n'était pas accessible. D'autre part, elle n'était pas adaptée aux formes de handicap. Mais, et qu'elle était injuste, discriminante pour la personne handicapée. Eh bien, vous proposez que pour être autonome, aujourd'hui, il faut mettre en place un système de dépistage et un système qui permettra d'anticiper. Ce qui va se passer là, c'est la construction avec les aidants et en faisant que les personnes handicapées deviennent les acteurs de leur propre santé. C'est une très bonne idée. Cette prévention qui va être une double source, une source d'éducation à la santé et une source d'aide à l'agenda d'une santé. C'est extrêmement important qu'on installe des réflexes. Et vous allez voir que ces réflexes vont devenir des très belles sources d'autonomie pour les personnes. Je voudrais dire que cette notion du couple aidant, personne handicapée, attentif à un agenda de la prévention, avec un souci d'être clair et transparent avec un acteur de soins qui peut vérifier que c'est fait au bon moment. Rappelez-vous ce que l'on disait en Angleterre, si vous n'avez pas fait toutes vos préventions, vous n'avez pas l'année d'après vos allocations. C'est pas idiot comme forme, parce que cette prévention, elle évite de nombreuses difficultés. Peut-être que demain, si nous réussissons ce que vous proposez, on sera peut-être en très belle capacité. Cette notion d'agenda que vous proposez et devrait permettre à tous les acteurs de soins d'être attentifs, non pas à leur simple problème, qui est le problème de la vessie, du cœur ou de ceci ou de cela, mais d'une vue globale de la personne dans sa santé, avec, bien évidemment, tous les dépistages qui éviteront la taille des tumeurs qu'on trouve pour les personnes handicapées. Vous avez proposé aussi quelque chose qui est une forme de prévention, c'est un outil de prévention qui permettrait dans l'ambulatoire de répondre à c'est où j'habite, j'ai accès à un lieu de prévention. Alors, c'est une bonne idée, ça existe par exemple aujourd'hui, on a transformé à Cayenne et on a un très beau travail qui est fait avec les autobus de PMI. Il y a même un CAMPS aujourd'hui qui se déplace. Alors je crois que ça c'est quelque chose qui peut initier et faire, mais il faut penser que la prévention n'existera que si elle est installée dans toutes les têtes de la personne handicapée en premier dans une éducation à la santé et de tous les aidants qui ont envie de la bonne santé de la personne qu'ils aident. C'est le bilan que je voulais vous dire extrêmement positif de nos les capables. Tout ça va peut-être nous amener à vous dire que la loi de santé publique, sur le travail que vous avez fait depuis 3 ans, nous a apporté des réponses très concrètes. Premièrement, je voudrais vous dire, l'accompagnement fait partie du droit commun dans la loi de santé publique. Aujourd'hui, plus personne, grâce à la charte, ne peut être en droit, là où il y en a besoin et où là où la personne le veut, de refuser qu'une personne soit là pour accompagner. La deuxième, c'est que il n'y aura plus, et on attend les décrets, et ça va être un peu encore longuet, parce que les discussions sont longues et ardues. Nous avons besoin de l'HAS et beaucoup d'acteurs autour de ça. Il faut que la coordination médicale s'installe. Elle est inscrite avec un outil de base qui est le carnet de santé partagé. Troisième notion, qui m'apparaît comme étant une des plus fondamentales et qui permettra à chacun de garder le sourire et le plus longtemps possible, c'est que la prévention, aujourd'hui, dans le système de santé, est une priorité des dépenses de l'État. Nous avions demandé à la région du Nord, et c'était à l'époque de Jean-Yves Graal, ça a été démarré. Aujourd'hui, le chantier est très évolué, très en avance. On travaille dans le milieu ordinaire et c'est en train de se conclure avec des directives et des circulaires. Je suis très content de voir que finalement, c'est plus facile de bien faire que de mal faire, parce que tous les acteurs de soins y trouvent leur intérêt. On est capable de faire aujourd'hui, comme un livre peut le dire, c'est vous qui êtes non les capables qu'il n'y ait pas de citoyens inutiles à La Réunion. Merci de votre attention.